Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du mercredi 11 novembre 2015. Et oui, en ce jour du souvenir, j'aimerais saluer tous ceux qui se sont battus pour la liberté et qui ont fait preuve de courage pour le bien de nous tous. C'est grâce à ceux qui sont allés au front, à ceux qui se sont battus, qu'on peut vivre aujourd'hui dans un pays en paix, dans une démocratie où est-ce que nous sommes libres. Une démocratie libre, ça a un coût. Et ce coût-là n'est pas seulement financier, mais il y a des vies humaines qui ont payé pour qu'on puisse vivre dans un pays avec une si grande qualité de vie. Alors, moi, j'ai un souvenir, justement. Mon père a été préparé pour aller à la guerre. Il était tout jeune et puis il me racontait qu'en 1945, il était entraîné pour être un éclaireur. Alors, il chevauchait sa motocyclette et puis il sautait avec sa motocyclette pour aller à l'arrière d'un camion. Et on plaçait des planches de bois pour qu'il puisse monter et descendre à toute vitesse. Et lorsqu'il descendait de ce camion-là, il devançait le camion, il allait au-devant puis il allait vérifier s'il allait avoir des attaques ennemies. Il rapportait justement ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu à ses supérieurs. Et lorsque fut le temps pour traverser, après cet entraînement-là, lorsque fut le temps pour traverser l'autre côté de l'Atlantique, pour se rendre à l'est de l'Atlantique, eh bien, en Europe, eh bien, il a appris que la guerre était terminée. Donc, il n'est pas allé au front, mais il a été entraîné pour la guerre. Imaginez tous ceux qui, justement, ont perdu leur vie, ont perdu des membres, tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille à cause de la guerre. Eh bien, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter puis de constater que notre liberté, elle a un prix et elle a été défendue par des militaires. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'il n'y ait jamais de guerre nulle part, qu'il n'y ait jamais de meurtre, qu'il n'y ait jamais de tuerie. Malheureusement, dans ce monde déchu dans lequel on vit, eh bien, on doit être protégé par une armée si on veut maintenir la paix, si on veut protéger notre paix. Et c'est pour ça qu'on s'arrête aujourd'hui, en ce jour du souvenir, le 11 novembre 2015, et comme à chaque année, c'est le 11 novembre qu'on s'arrête pour ça. Et je vous invite à aller voir la plateforme de Tourisme Ottawa pour consulter cette plateforme et pour voir quelles sont les activités qui pourraient vous intéresser. Il y a des activités commémoratives qui ont lieu un peu partout dans la région de l'Outaouais, dans la ville d'Ottawa. Alors, vous pourrez consulter cette plateforme si jamais vous êtes intéressé à participer à l'une de ces cérémonies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer deux sujets. Alors, la prévention contre l'abus sexuel des enfants et les coupures dans l'aide sociale. Premièrement, la prévention contre les abus sexuels. Il y a deux articles qui, moi, ont piqué ma curiosité. Celui de Michel Moineur, d'Info 07, et celui de Guillaume Saint-Pierre, sur la plateforme du droit, du journal Le Droit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour la première fois de ces 28 années d'histoire, et ce dans le cadre de la Journée mondiale de prévention des abus envers les enfants, le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille lance une campagne régionale de sensibilisation et de prévention. Pardon. Alors, mesdames et messieurs, c'est vraiment important parce qu'on n'est pas simplement en train d'essayer de réparer les bobos, les pots cassés, mais on est en mode prévention, en mode sensibilisation. Alors cet organisme-là, le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, nous invite à porter un nœud papillon le 19 novembre prochain en guise de soutien aux enfants abusés. Ces nœuds papillons sont disponibles, sont en vente au coût de 25 $ jusqu'au 19 novembre. Vous pouvez commander votre nœud papillon en allant sur leur site au ciasf.org, c'est le www.ciasf.org ou .org si vous aimez mieux. Alors, selon le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, le CISF, en Outaouais, l'adulte qui commet des abus est connu de l'enfant dans 97% des cas. Donc, dans 3% des cas qu'il y a un abus sexuel envers un enfant, l'enfant ne connaît pas cette personne-là. Donc, c'est presque dans 100%, dans 97%. C'est quand même épeurant. C'est quand même épeurant de savoir que c'est par une personne très proche de l'enfant qui se produit un abus sexuel. C'est là qu'il est le plus vulnérable, c'est là qu'il est le moins sur ses gardes, parce qu'il a une confiance, parce qu'il fait partie de son décor, de son univers. Et savez-vous que c'est de l'ordre de 72% des agresseurs. 72% des agresseurs, qui sont-ils? Eh bien, sont un membre de la famille de leur victime. Et oui, 72% des agresseurs sont un membre de la famille de leur victime. Et ça, c'est préoccupant. Et malheureusement, on vit dans une société où est-ce que tout peut se produire. Et c'est pour ça qu'on doit être préparé, et c'est pour ça que cet organisme-là fait de la sensibilisation et de la prévention. Vous savez, concernant les situations d'abus sexuels, eh bien, ça représente environ 10% des 5300 signalements annuels faits au directeur de la protection de la jeunesse. Donc, quand il y a des signalements, 10% d'entre eux, ça concerne des abus sexuels. Donc, il y en a 530 sur les 5300. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Mais attention, il y a une autre statistique qui nous révèle ceci. Seulement 10% des abus seraient dénoncés. La vaste majorité des victimes finissent par porter en eux ce mauvais secret. Alors, c'est ça que ce sont les statistiques que ces deux plateformes nous révèlent. Donc, il y a 10% des signalements qui sont des abus sexuels, mais il y a seulement 10% des abus qui sont dénoncés. Et donc, il y en a beaucoup plus. Malheureusement, les gens vivent avec un secret. Les gens ne veulent pas confronter leur agresseur. Il y a une honte, il y a une captivité dans laquelle les jeunes sont gardés, et même les adultes qui l'ont vécu quand ils étaient jeunes ou qui l'ont vécu en étant adultes. Et donc, le CIASF désire aider les parents afin qu'ils fassent de la prévention auprès de leurs enfants tout en douceur, en commençant à l'âge de 4 ans. Puis, quelles sont les notions qu'ils veulent enseigner? Eh bien, les notions que les parties de l'enfant, ces parties sexuelles, sont des parties privées, l'intimité. Ils veulent les sensibiliser aussi au bon et au mauvais toucher. Et moi, je me souviens, là, lorsque mes enfants étaient jeunes, maintenant, ils sont des adultes, mais lorsque mes enfants étaient jeunes, c'était bien simple qu'est-ce que je leur apprenais. Je leur disais, si quelqu'un s'approche de toi puis tu n'es pas à l'aise, prends tes distances. S'il te touche puis tu n'es pas à l'aise, dis-lui non. Si tu ne te sens pas bien, c'est important que tu n'acceptes pas, même si la personne est gentille, même si la personne t'offre des cadeaux, quoi que ce soit, tu dois respecter ta conscience puis ton cœur. C'est comme ça que je les ai préparés. Et ce qu'on dit, c'est que chaque année, les psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, criminologues et psychothérapeutes du CIASF viennent en aide à tout près de 500 enfants victimes d'abus sexuels. C'est énorme! Eux autres, ils les accueillent dès l'âge de 3 ans. Après les avoir et fait comprendre qu'on croit leur histoire, on procède à un signalement à la DPJ et à la police, et puis on intègre les enfants au sein d'un groupe de thérapie qui se concentre sur différents volets comme le traumatisme, l'éducation à la sexualité, l'affirmation de soi. Leur programme à eux dure environ entre 9 semaines et 6 mois, tout dépendant du groupe d'âge. Et donc, c'est important ce que ce groupe-là fait, le CIASF. Et puis, en terminant sur ce sujet-là, il touche un point important dans ces deux articles-là, parce que ce qu'on nous mentionne, c'est que certaines jeunes victimes qui suivent une thérapie au CIASF ressortent complètement transformées. Et cette transformation-là, ça peut prendre quelques mois. Mais savez-vous quoi? Ils nous disent que l'anxiété et les symptômes de déprime qui les caractérisaient se sont atténués ou même disparus. Le premier message qu'ils vont leur transmettre se résume en quelques mots, vous n'êtes coupable de rien. Et c'est incroyable pour moi, pour avoir connu des gens qui ont été victimes d'abus sexuels, et c'est souvent la culpabilité, la honte, mais spécifiquement l'anxiété. L'anxiété, et il touche un point vraiment important, l'anxiété. Il y a des gens qui vont, entre guillemets, avoir pardonné ou vont tenter d'oublier cet abus-là, ou les abus qu'ils ont vécus. Mais il y a une chose qui demeure, parce que lorsqu'on abuse un enfant, il n'y a pas eu juste un moment de plaisir instantané. Il y a eu chez l'enfant quelque chose qui a été semé. Et cette semence-là, et je parle dans son cœur, je parle, et cette semence-là, elle produit dans beaucoup de cas, soit de la déprime, de la dépression ou de l'anxiété. Et Et ça, c'est relié avec la culpabilité, de la honte. Et moi, je dis bravo à ceux qui s'impliquent, qui se donnent pour essayer de restaurer ces petits vases qui ont été brisés, qui ont été endommagés, alors qu'un enfant a tellement besoin de chaleur, d'affection et d'amour authentique. Alors, merci d'encourager cet organisme-là et je vous invite à aller vous procurer votre nœud papillon pour le 19 novembre prochain. Les coupures dans l'aide sociale. Oh, que le temps va vite! C'est incroyable comment le temps nous presse. Alors, ce qu'on nous dit, je vous invite à aller voir le 98.5 FM là-dessus, le Journal de Montréal également et TVA Nouvelles. Parce qu'on en parle. On en parle, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit, c'est que tout près de 440 000 personnes ont bénéficié des programmes d'aide financière de dernier recours, donc d'aide sociale et de solidarité sociale au mois de juillet dernier. Donc, Québec va limiter l'accès à l'aide sociale en coupant désormais les vivres aux demandeurs jugés aptes à travailler. Et oui, selon le projet de loi 70, les demandeurs de prestations d'aide sociale n'ayant aucune contrainte particulière devront obligatoirement s'inscrire à une démarche d'emploi sous peine de pénalité financière. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui est apte au travail, qui peut travailler, mais qui n'a plus d'emploi, il n'a plus de revenus, il va devoir s'inscrire à une démarche pour, non pas pour recevoir de l'argent de l'État puis devenir dépendant de l'État, mais pouvoir justement apprendre à savoir comment s'en sortir. Ces derniers pourraient voir leur chèque d'aide sociale coupé de moitié s'ils refusent de se chercher un travail. C'est quand même spécial. On est en train de resserrer d'un autre cran l'aide gouvernementale à ceux qui en ont besoin. Et comment il justifie ça, le ministre Sam Ahmad? Il dit, en conférence de presse, le ministre Ahmad a justifié la nature de son projet de loi en disant qu'il fallait briser le cercle vicieux de la pauvreté, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes aptes à gagner leur vie. Et ça, là, parce qu'il dit que les programmes incitatifs n'ont pas donné les résultats souhaités auprès de cette clientèle-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que le gouvernement, d'une part, va faire des économies et d'autre part, il veut inciter les jeunes à ne pas demeurer sur l'aide sociale, mais au contraire, à trouver des moyens pour rechercher et obtenir un emploi. Et ça, on ne peut pas être contre la vertu. Ça, c'est louable et ça, c'est important qu'on puisse briser cette culture de dépendance envers l'État. Mais en même temps, l'État a un rôle à s'assurer qu'il y a de la création d'emplois et s'assurer justement que les gens qui n'ont pas de revenus puissent trouver un emploi. Et moi, ce que je trouve intéressant, ce sont les solutions alternatives qui ont été proposées par l'Institut économique de Montréal il y a quelques années, sous la plume de Norma Kazaya, par exemple. Elle, avec une étude qu'elle a faite sur l'aide sociale, spécialement certaines réformes qui ont été faites aux États-Unis et ailleurs, eh bien, ce qui fonctionne bien, c'est des limites de temps aux prestations d'aide sociale. Par exemple, si on mettait une limite de 5 ans, toujours pour ceux qui sont aptes au travail, et même moi, je serais d'accord à ce qu'on augmente les prestations. Si on économise 50 millions par année, on pourrait le redistribuer à ceux qui sont inaptes au travail à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant pour réduire justement le niveau de criminalité, le niveau de travail au noir, pour pouvoir aider à boucler les fins de mois à ceux qui justement ne sont pas aptes. Mais à ceux qui sont aptes au travail, eh bien, dans une vie, il y aurait un maximum de 5 ans. Par exemple, l'obligation pour les prestataires de travailler, de participer à des activités communautaires ou à des activités de formation. Ils vont même proposer jusqu'à une semaine de bénévolat par mois, l'équivalent d'une semaine de bénévolat par mois. Si l'État verse de l'argent, mais pourquoi, par exemple, il n'y aura pas de ces gens-là qui iraient aider à rénover? Par exemple, tous ceux qui ramassent les papiers sur le long des autoroutes, toutes des choses comme ça qui pourraient être faites à ce moment-là. Alors, et donc, il faut se pencher sur cette question-là pour s'assurer que ceux qui en ont besoin en bénéficient et ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour retrouver un travail, eh bien, puissent avoir l'aide nécessaire et afin que chacun puisse pouvoir vivre dignement dans ce beau pays et dans cette belle province qui est le Québec. Alors malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Eh bien, j'aurais aimé ça poursuivre la conversation. On va avoir certainement l'occasion d'en reparler. Alors, si vous voulez poursuivre cette discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net, c'est leblogueur@commercialericlantier.net. Donc, c'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite à être des nôtres demain à 8h05 ou à 20h05 pour un autre tour d'horizon. N'oubliez pas, cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, le www.ericlantier.net. Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Je vous dis donc à demain.